Il est midi et demi, place au journal de la mi-journée jusqu'à 13h sur Europe 1 avec vous, Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Le mystère, il est parti dans la nuit de son domicile. Son épouse l'a entendu partir, mais sans plus de précision. Et là, depuis, on cherche quoi.
Un homme de 77 ans, toujours porté disparu depuis cette nuit dans le Var, département le plus touché sur les 12 placés en vigilance orange à cause de fortes pluies. Hier, 1000 personnes ont dû être évacuées. Autre département critique, le Gard, où de nombreuses routes ont été coupées. Nouvel appel à manifester cet après-midi à travers toute la France pour dire stop aux violences faites aux femmes à 2 jours de la fin du Grenelle des violences conjugales.
On voudrait, c'est que chaque personne qui vienne à cette marche s'engage vraiment contre les violences sexistes et sexuelles à son niveau.
Toujours dans le journal de la mi-journée, marche de soutien à Valenciennes à un gilet jaune blessé lors de la manifestation parisienne la semaine dernière. Nous irons à Marseille avec la grotte Cosquet qui va avoir une réplique.
Ce qui est magique dans cette grotte, c'est le reflet des peintures dans l'eau. Vraiment, c'est essentiel dans ce projet d'avoir toute cette atmosphère et cette magie qu'il faut restituer.
Le journal des sports avec les demi-finales de la Coupe Davis à Madrid. Et puis notez que dans Tout Terrain à 13h, nous reviendrons sur le Grenelle des violences conjugales avec un reportage édifiant au cœur d'un groupe de paroles d'hommes qui ont été condamnés pour avoir été violents avec leurs femmes, des hommes souvent dans le déni.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il avait déjà plu toute la semaine dans le Var et il pleut sans discontinuer depuis hier en milieu de journée. Des précipitations qui expliquent que ce soit dans ce département que la situation est la plus critique ce midi sur les 12 départements placés en vigilance orange. Et depuis cette nuit, c'est un homme de 77 ans qui est porté disparu à Saint-Antonin-du-Var. C'est là que vous vous trouvez, Jacques Terrance, et les recherches sont toujours en cours.
Et tout à fait Fabienne, ces recherches ont démarré il y a presque 6 heures maintenant pour retrouver ce septuagénaire qui est décrit un petit peu comme désorienté. Un homme de 77 ans qui pourrait être parti en fait en pyjama de chez lui. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait, explique le maire Serge Baldecchi.
Le mystère, il est parti dans la nuit de son domicile. Son épouse l'a entendu partir mais sans plus de précision. Et là depuis on cherche quoi, dès qu'on a été informé de la disparition. Soit qu'il est perdu, soit il ne se retrouve pas, soit voilà.
Vous avez bon espoir ?
Ah, toujours espoir. Je garde toujours espoir.
Et très tôt, vers 7h ce matin, une quinzaine de pompiers sauveteurs aquatiques et des gendarmes ont été dépêchés autour de son domicile, mais aussi ont quadrillé les collines alentours. Il faut dire que vraiment, les recherches sont particulièrement difficiles puisqu'il pleut, vous le disiez, sans discontinuer. Ici, les chemins sont gorgés d'eau, les vallons déversent des cascades sur les routes. La crainte, c'est évidemment que ce septuagénaire ait été emporté. Ici, des habitants, une trentaine, en fait, participent à des recherches spontanément, comme Denis, venu de la commune voisine.
Ben, ça serait quelqu'un de ma famille, je serais content qu'il y ait beaucoup de mobilisation, quoi, voilà. Ah ouais, non, c'est pas évident, mais bon, il faut le faire quand même, quoi. On a beau regarder à travers, vous voyez, la végétation est quand même épaisse, et de ce fait, on n'arrive pas à voir, il serait tombé à quelques mètres de là, on ne le verrait pas, quoi, voilà.
Voilà, et les recherches vont se poursuivre tout au long de l'après-midi, avec un temps, évidemment, très exécrable dans la région.
Jacques Terrance à Saint-Antonin-du-Var pour Europe 1. Nous reviendrons justement sur ces conditions climatiques avec Valérie Darmon dans une dizaine de minutes. Jacques, vous nous parliez à l'instant des recherches pour retrouver cet homme de 77 ans porté disparu depuis cette nuit. Nicolas Feldman a pu joindre sa fille particulièrement inquiète.
Je ne sais pas. C'est ma belle-mère qui m'a appelé ce matin. C'est quand moi j'ai vu les infos, 77 ans, mon père, il a été opéré de la prostate, il a une poche, il ne supporte pas, il perd un peu la tête, je ne sais pas, il est parti à 5h du matin. Il est parti dans la forêt et puis on ne le trouve plus, quoi. Je ne sais pas. Oui, il s'est perdu dans la forêt, il est tout seul, il a froid, il est perdu, il est tombé. Ben, j'en profite pour dire que s'il regarde dans les rivières, un peu autour de Saint-Antonin, qu'il regarde partout dans les forêts, qu'il essaye de regarder, quoi. Qu'il s'est peut-être réfugié dans une cabane de chasseurs, peut-être tombé, je ne sais pas, moi, dans un fourré, je ne sais pas, il est blessé, je ne sais pas. Que les gens près de Saint-Antonin regardent. En plus, il marche tout doucement, il n'a pas dû partir très loin, quand même. Hein. Mais enfin, depuis 5 heures du matin, même à 2 à l'heure, on avance. Hein. Il pleut beaucoup, donc. Il y a les pompiers qui recherchent, tout le monde recherche, quoi.
La fille de cet homme de 77 ans portée disparue depuis cette nuit, un témoignage recueilli par Nicolas Feldman, situation donc critique dans le Var. Hier, un millier de personnes ont été évacuées du quartier de l'Oratoire, évacuation aussi d'un camping à Fréjus et à Roquebrune-sur-Argence, mais ce sont en tout 12 départements qui sont placés en vigilance orange dans le sud de la France. On va faire le point avec vous, Élise Dangean, sur les intempéries en cours. Et l'autre département, Élise, particulièrement touché par ces fortes pluies, c'est le Gard.
Absolument. Résultat, plusieurs fleuves sont en crue. Le Gardon est sorti de son lit à Alès, par exemple, ou encore à Saint-Jean-du-Gard. Il est monté jusqu'à 2,50 m. Plusieurs routes ont été fermées dans ce département à cause de ponts submersibles. Une mesure préventive. Des routes inondées ce matin aussi à Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, cette fois, où les étangs ont débordé. Dans le Var, et notamment à Hyères, c'est 400 personnes qui ont été évacuées. On constate une légère accalmie là-bas, mais qui ne sera que de courte durée, selon le maire Jean-Pierre Girand.
Il peut quand même y avoir des inondations importantes. Les fleuves ont beaucoup monté, le Gapeau est en voie de débordement, le Rouveau également, et ils sont bien sûr alimentés par les pluies qui tombent sur le bassin versant en amont. On espère que l'accalmie va un peu durer, mais les prédictions météo nous disent que ça va remonter fortement en fin d'après-midi. Nous sommes très vigilants.
Et en attendant, dans ce département, 2400 foyers sont privés d'électricité. La circulation des trains est-elle fortement perturbée?
Merci beaucoup Élise Dangean. On fera un point complet sur l'évolution de la météo dans les prochaines heures dans cette région avec Valérie Darmon d'ici une dizaine de minutes.
Europe 1 midi 36, la suite du journal Fabienne Lemoyle.
Elle devrait être plusieurs milliers à manifester à travers toute la France pour dénoncer une nouvelle fois les violences faites aux femmes. 137, c'est le terrible décompte des associations du nombre de femmes tuées par leurs conjoints depuis le début de l'année, d'où l'appel à manifester aujourd'hui des associations à deux jours de la fin du Grenelle des violences conjugales. Pauline Baron est l'une des coordinatrices de cette manifestation organisée par le mouvement Nous Toutes.
On voudrait, c'est que chaque personne qui vienne à cette marche s'engage vraiment contre les violences sexistes et sexuelles à son niveau. C'est-à-dire qu'une citoyenne ou un citoyen, je vais mettre des guillemets, lambda, eh bien, fasse attention quand il prend les transports en commun d'aider une femme qui subit un frotteur dans le métro, par exemple. Un chef d'entreprise, il peut mettre en place, ou elle peut mettre en place, une politique ou un plan pour permettre l'égalité salariale et pour permettre de repérer les violences sexistes et sexuelles. Au niveau de la région, ça peut être la mise en place de programmes pour accompagner les victimes. Et plus on remonte, plus il faut amener du lourd. Donc si Marlène Schiappa souhaite marcher contre les violences sexistes et sexuelles, il faudrait qu'elle vienne avec au moins le milliard d'euros supplémentaires qu'on demande. Donc il faut mettre les moyens. On n'a plus le temps d'attendre. C'est une cause d'urgence.
Pauline Baron, coordinatrice de cette manifestation avec Jihan Bergaoui. Début de la manifestation à Paris à 14h, place de l'Opéra. Manifestation aussi en région à Lille, Strasbourg, Nice ou encore Toulouse. Notez que dans tout terrain à 13h, nous reviendrons sur le Grenelle des violences conjugales avec un reportage, je vous le disais, édifiant au cœur d'un groupe de paroles d'hommes qui ont été condamnés pour avoir été violents avec leurs femmes. À suivre, nous partons à Valenciennes, acte 54 des Gilets jaunes et marche de soutien à manifestants blessés à Paris la semaine dernière.
Il est midi 39 et vous écoutez le journal de la mi-journée sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
Il y a une semaine, le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes était marqué par les violences place d'Italie à Paris. Autre image, celle d'un gilet jaune blessé à l'œil, vraisemblablement par un projectile tiré par les forces de l'ordre. Une enquête de l'IGPN a été ouverte. Une marche de soutien est organisée aujourd'hui à Valenciennes et notre correspondant dans le Nord, Maxime Carlier, a rencontré ce gilet jaune, Manuel, qui vient de sortir de l'hôpital.
Une coque sur son œil gauche, l'hématome est encore visible, il s'étend jusqu'à son nez. Une semaine après l'accident, Manuel est toujours abattu.
Je me sens détruit, perdre mon œil alors que je travaille dans l'automobile. Je pense que j'aurais pu travailler là-dedans déjà. Et mon ressenti, c'est qu'on est arrivé sur Paris et c'était vraiment un guet-apens. On s'est retrouvé au plein milieu d'un bordel phénoménal. C'était un piège à... Je suis pacifique depuis un an, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours travaillé dans ma vie, mais là ma vie elle est au point mort. Ma vie elle est au point mort maintenant. Je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. C'est injuste. Je ne méritais pas ça.
À côté, sa conjointe, Séverine, employée en milieu hospitalier. Elle tente de le réconforter, elle lui donne la main, l'embrasse, mais elle est aussi très en colère.
Nous avons porté plainte. On ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le préfet de police, on ne le lâchera pas. Ça, c'est clair et net. Il est hors de question qu'à cause de lui, la vie de mon homme soit gâchée et que ça reste impuni.
Et un juge d'instruction a été chargé de l'enquête sur cette grave blessure à l'œil. Valenciennes, Maximilien Carlier, Europe 1.
9 communes reconnues en état de catastrophe naturelle après le tremblement de terre du 11 novembre, 5 en Ardèche, 4 dans la Drôme. Parmi les plus touchées, la commune du Teil où plus de 1000 personnes ont dû être relogées et sont toujours dans l'attente de savoir si elles pourront ou non réintégrer leur habitation. On se souvient de la grotte Chevet en Ardèche pour laquelle il avait fallu construire une réplique pour préserver la grotte originale. Et bien, même démarche à Marseille pour la grotte Cosquer. C'est à la Villa Méditerranée sur le port que les visiteurs pourront embarquer sous le niveau de la mer pour découvrir ce joyau de la préhistoire. Nathalie Chevance.
C'est un trésor archéologique voué à disparaître à cause de la montée du niveau de la mer. Aujourd'hui, seul un tiers de la grotte est encore préservé. Mais pour y accéder, il faut plonger à 40 mètres sous l'eau, franchir un long tunnel pour découvrir enfin les incroyables peintures d'animaux marins. Pingouins, phoques, méduses, plus de 500 œuvres. Geneviève Rossillon, présidente de la société en charge de la reconstitution de la grotte.
Le visiteur va aller dans un local qui simule d'être sous le niveau de la mer. Et là, il va embarquer dans un petit module et on va restituer toute l'ambiance, les lumières, les concrétions, la présence de l'eau, comme si vous étiez un plongeur qui arrive dans la grotte. Toutes les parois ornées vont être restituées à l'échelle 1. Ce qui est magique dans cette grotte, c'est le reflet des peintures dans l'eau. Vraiment, c'est essentiel dans ce projet d'avoir toute cette atmosphère et cette magie qu'il faut restituer.
30 000 ans d'histoire reconstituée grâce aussi au combat de celui qui a découvert la grotte, Henri Cosquer, qui se souvient de ce qu'il a ressenti il y a 30 ans.
C'est de l'avoir partagé avec mes moniteurs. On a découvert toutes les peintures ensemble. Et c'est là où l'émotion vient. Là, on regarde les peintures et puis c'est qui c'est qui a fait ça. On ne se rend pas compte de la découverte. J'espère que pour Monsieur Tout-le-Monde, on arrive à s'approcher au maximum de la réalité.
Une balade sous-marine pour expliquer aussi les enjeux du réchauffement climatique. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Dans un instant, le journal des sports avec Simon Rubin et Paris qui n'a pas tremblé hier face à Lille.
Le journal des sports.
Avec Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour.
On commence, je le disais, avec du football et Paris qui n'a pas tremblé face à Lille.
Oui, on était curieux de voir ce match. Alors au final, pas de frayeur pour les Parisiens. Di Maria et Icardi buteurs. Les regards évidemment convergés vers Neymar pour sa reprise. Alors pas de coup d'éclat de la part du Brésilien. Match plutôt terne ou sobre pour le dire plus joliment. Bilan, c'est pas le match du siècle, conclut Thomas Meunier.
Ouais, c'était pas le match du siècle, loin de là. Maintenant, on a fait le nécessaire. Le clean sheet, se créer des opportunités. Le score aurait pu être très sévère, malgré tout. Et voilà, pas de blessure aussi. Et après une terre internationale qui a été assez rude pour certains. Et puis les retours de blessures, les sensations et autres. C'était dans l'ensemble un match bon, moyen, mais enfin, positif pour nous dans les leçons à tirer.
Thomas Meunier au micro de Julien Froment et Paris qui sera à Madrid mardi pour la cinquième journée de Ligue des Champions.
Toujours en Ligue 1 tout à l'heure à 17h30, c'est Lyon qui va vouloir retrouver le sourire face à Nice.
Battu par l'OM la semaine passée, l'OL veut effectivement reprendre des couleurs, hein, ou plutôt battu par l'OM lors de la dernière journée. Le club lyonnais qui affronte Nice. Alors c'est un duel de mal classé puisque Nice est 13e, Lyon 14e. Et pour notre consultant Alain Roche, Lyon a intérêt à se reprendre.
D'abord, tous les matchs sont importants pour Lyon actuellement, qui est quand même classé 14e, donc qui n'est pas du tout à la hauteur de ses ambitions. Il y a eu un changement d'entraîneur, Rudy Garcia est arrivé, qui a tenté d'impulser un état d'esprit, une sorte de rage de vaincre sur le terrain, que cette équipe a totalement perdu face à Marseille. Retrouver donc cet état d'esprit, sans Memphis Depay, il n'était pas là non plus lors de la défaite à Marseille. Lyon est au-dessus du lot et doit s'imposer chez lui.
Et à 20h, le multiplex européen avec Amiens-Strasbourg, Brest-Nantes, Metz-Reims, Angers-Nîmes et Dijon-Rennes.
Deuxième journée de Coupe d'Europe de rugby. Hier soir, Clermont a perdu à la surprise générale.
Oui, du côté de l'Ulster face au club irlandais 18-13. Pas la meilleure manière de commencer le week-end pour les clubs français. Aujourd'hui, trois autres équipes françaises sont sur le pont. À 14h, les très bons Toulousains qui recevront le Connacht. À 16h15, Lyon recevra le Leinster, vice-champion d'Europe en titre, avec déjà la menace d'être mis hors du coup, puisque les Lyonnais avaient perdu la semaine passée à Northampton, le manager Pierre Mignoni.
Bien sûr qu'on a envie de faire mieux, on doit faire mieux. Les joueurs sont remis en question toute la semaine, ils ont envie de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Bien sûr, on est critiqué fortement, parce que c'est la deuxième année qu'on fait cette compétition, hein. Mais en tout cas, on est capable de faire mieux, et moi je crois beaucoup en mon équipe.
Et à 18h30, hein, l'affiche du jour, le Munster reçoit le Racing. C'est en Irlande, les Racing Men qui veulent remporter la victoire après avoir brillamment vaincu les champions d'Europe en titre, les Saracens, le week-end dernier.
Merci beaucoup Simon Rubin. Il nous reste à voir la météo.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et Valérie Darmon m'a rejoint en studio. On le disait au début de ce journal, Valérie, 12 départements en vigilance Orange avec la situation qui est particulièrement critique dans le Var avec cet homme toujours porté disparu. Ça va évoluer comment ?
Alors en vigilance forte pluie, inondation, vent violent, donc de la Loire jusqu'au Var et on a l'Hérault et l'Aveyron qui sont en vigie crue. Alors en Provence, Côte d'Azur, la situation est très préoccupante. Il est tombé déjà par endroit 193 mm de pluie. C'est l'équivalent d'ici ce soir d'un mois et demi à trois mois de précipitation en quelques heures. Le Gapot et l'Uvonne débordent déjà, générant déjà des inondations et pas seulement ces cours d'eau-là. Cet après-midi, il va encore pleuvoir beaucoup sur les Cévennes et puis à partir de 15h, ça va se calmer tranquillement sur la partie ouest, donc du côté des Cévennes. En revanche, la région PACA va continuer d'être très 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 arrosée jusqu'à demain. La fin d'épisode est prévue demain aux alentours de la mi-journée. Le vent aussi va rester très violent hein, entre le littoral de PACA, la moyenne vallée du Rhône et les Alpes, avec des rafales qui vont atteindre 140 km/h sur les crêtes alpines et 100 tout de même sur les côtes avec un vrai risque de vague submersion. Soyez très prudents sur ces régions, évitez de circuler si vous le pouvez.
Et vous nous annoncez de la neige.
Alors, tempête de neige carrément sur les Alpes-Maritimes au-dessus de 1600 mètres d'altitude. Et là, les accès aux stations de ski sont impossibles.
Merci beaucoup Valérie Darmon et on vous retrouvera bien sûr dans le 18-20 de Wendy Bouchard pour l'évolution de ces conditions météo à suivre. Les étudiants poursuivent leur mobilisation pour dénoncer la précarité et c'est dans ce contexte que la Fondation Jean Jaurès publie une étude sur la jeunesse, jeunes des villes, jeunes des champs, la lutte des classes n'est pas finie. On en parle avec Salomé Berlioux, présidente fondatrice de l'association Chemin d'Avenir.
Soyez les bienvenus sur Europe 1, il est midi 51. Le journal de la mi-journée se poursuit à présent avec votre témoin de la semaine, Fabienne Lemoyle.
Et je vous le disais, les étudiants poursuivent leur mobilisation pour dénoncer la précarité. Appel à manifester mardi pour réclamer un plan d'urgence. Jeudi, c'est Emmanuel Macron qui a été interpellé à Amiens. Et c'est dans ce contexte que la Fondation Jean Jaurès publie une étude sur la jeunesse. Jeunes des villes, jeunes des champs, la lutte des classes n'est pas finie. Bonjour Salomé Berlioux.
Bonjour.
Présidente de l'association Chemin d'Avenir et co-auteur de cette étude. Merci beaucoup d'être en studio avec nous ce midi. Avant de revenir sur cette étude qui met en lumière ces enfants oubliés de la République qui vivent dans les zones rurales et qui n'ont pas les mêmes chances de réussite, dites-vous, tout simplement parce qu'ils vivent trop loin des villes. Un mot sur ce mouvement étudiant qui dénonce la précarité et ce chiffre, 20% des étudiants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, le logement qui est un gouffre financier. Et ça rejoint justement un chiffre qui m'a marqué dans votre étude. Une famille sur deux en milieu rural dit qu'elle ne peut pas financer un logement pour que son enfant poursuive des études supérieures à la ville.
Oui, ce qui est vrai, c'est que la question du logement, elle est centrale pour les étudiants parce qu'elle est à la fois, elle est vraiment à la jonction entre des enjeux financiers, vous le disiez, une famille sur deux qui peut financer un logement à son enfant. Et puis, à la jonction aussi avec des enjeux géographiques. On a un jeune sur trois dans l'étude qui indique avoir dû renoncer à une formation du fait de l'éloignement de cette formation avec son domicile. Donc on est en plein sur un angle qui est très fort dans l'enquête Chemin d'Avenir Fondation Jean Jaurès, qui est la question de la mobilité pour les jeunes en France et à l'étranger également.
Vous êtes aussi à la tête d'une mission que vous a confiée Jean-Michel Blanquer sur cette jeunesse de la France périphérique, de cette jeunesse de la France rurale. Est-ce que vous allez justement aller à la rencontre des syndicats étudiants pour échanger justement sur ces problématiques qui se rejoignent ?
Ça fait partie des acteurs que je vois là et que je vais voir dans cette phase de consultation. Ça n'aurait pas vraiment grand sens pour moi de commenter aujourd'hui le rapport puisque c'est vraiment la phase où je rencontre des acteurs de terrain. Je suis très présente avec les rectorats, avec évidemment des professeurs, avec les jeunes eux-mêmes, des associations aussi qui agissent déjà en matière d'égalité des chances. J'étais à l'OCDE la semaine dernière pour la partie comparaison internationale, au Conseil économique, social et environnemental. Et donc voilà, la question, là, c'est cette phase de consultation et puis ensuite pouvoir rendre des préconisations au ministre en début d'année 2020.
Je reviens à cette étude de la Fondation Jean Jaurès qui prolonge ce livre que vous étiez venu nous présenter ici à Europe 1, Les Invisibles de la République. Ces invisibles, ce sont ces jeunes de la France rurale qui n'ont pas les mêmes armes pour faire des études. Ce qui est édifiant dans ce que vous écriviez déjà à l'époque, c'est qu'on, quand on est enfant d'ouvrier en banlieue, on a deux fois plus de chances de gravir l'échelle sociale que quand on vient de Poitou-Charentes. Pour vous, clairement, et votre étude le montre là encore, la fracture n'est pas sociale, elle est territoriale.
Alors, elle est les deux. Elle est les deux. C'est-à-dire que l'étude, elle montre bien que le déterminisme social, il existe toujours et qu'au déterminisme social, peut s'ajouter un déterminisme géographique et que le déterminisme géographique, ces effets de lieu qui pèsent sur l'avenir de certains jeunes Français, c'est un sujet à lui tout seul. Et
ça se traduit comment ? Vous parlez d'autocensure. Vous prenez par exemple l'exemple, en gros, je suis à la campagne, je veux travailler avec des animaux, mais j'envisage un métier qui ne peut pas être vétérinaire. C'est trop haut pour moi, en gros.
Alors, il faut faire attention de toute façon à ne pas caricaturer. C'est-à-dire que d'une part, évidemment, les jeunes des grandes métropoles, eux aussi, peuvent avoir des difficultés à relever. Et puis, les jeunes des quartiers prioritaires de la ville également. Hein. Cette question de l'autocensure, elle est partagée à la fois dans les banlieues et à la fois dans les territoires ruraux. Mais ce qui est vrai, et ça je le vois très bien avec Chemin d'Avenir depuis plus de 3 ans, c'est qu'il y a quand même une forme d'autocensure corroborée là par l'étude que nous avons commandée à l'IFOP avec Chemin d'Avenir et la Fondation. Une forme d'autocensure très typiquement rurale, c'est-à-dire c'est pas fait pour moi, telle filière, tel métier, parce que j'ai grandi à la campagne. Et ça, si vous voulez, l'autocensure, elle est alimentée par plusieurs éléments. C'est pas juste une espèce de mécanisme psychologique, un manque de confiance en soi totalement lié à l'adolescence ou quelque chose comme ça. Là, on voit bien que les jeunes, notamment des zones rurales et des petites villes, ils font face à une espèce de cumul d'obstacles qu'effectivement on montrait déjà avec Erki Maillard dans Les Invisibles de la République.
Le manque de réseau,
ça vous voyez, on a notamment... Alors, il y a la question du réseau, et notamment parce que les jeunes sont très lucides face à ça dans l'enquête. Ils disent que le réseau est plus important, le réseau, donc le carnet d'adresses, hein, est plus important que ce qu'on fait comme étude dans la construction de son parcours professionnel. Ce qu'ils mettent en avant, c'est le réseau d'une part, et à 49% l'expérience acquise par les stages, qui, on le sait bien, dépend aussi des opportunités qu'on peut avoir.
C'est pour ça que je pense à une proposition que faisait Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, chez nous hier soir. Elle parlait de job étudiant qui permettrait d'avoir un revenu, mais peut-être aussi, comme ce que vous souhaitez, d'avoir aussi un carnet d'adresses qu'on se construit.
Oui, ce que ça permet aussi, c'est notamment, je pense, de pouvoir avoir auprès de soi des rôles modèles qui ne sont pas forcément l'environnement familial ou l'environnement à proximité immédiate dans son village. Et là, à nouveau, il y a un écart qui est très net de 14 points entre les jeunes des zones rurales et les jeunes de l'agglomération parisienne quant à la présence de ce rôle modèle inspirant qui va leur donner accès à un univers différent de celui qu'ils connaissent. Mais à ça s'ajoute le manque d'accès à l'information, à ça s'ajoute l'écart également dans la pratique d'activités extrascolaires et culturelles, à ça s'ajoute un rapport à l'ambition qui est parfois un peu biaisé, ça fait beaucoup.
Et on comprend bien pourquoi Jean-Michel Blanquer vous a confié une mission, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup à faire. On aura l'occasion d'en reparler et vous reviendrez nous dire un peu plus sur cette proposition. Merci beaucoup,
merci
Salomé
Berlioux,
d'avoir été avec nous. Je rappelle, présidente de l'association Chemin d'Avenir. Vous le savez, on prolonge cette transinformation à 13h avec Tout Terrain et on reviendra longuement sur les violences conjugales avec une plongée exceptionnelle au cœur d'un groupe de parole avec des hommes violents, très souvent dans le déni.
13h, bon week-end à tous. L'essentiel de l'info sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoyle.
12 départements placés en vigilance orange avec une situation particulièrement critique dans le Var. La pluie ne cesse de tomber sans discontinuer depuis hier midi à Saint-Antonin-du-Var, dans l'arrière-pays près de Draguignan. Un homme de 77 ans est porté disparu depuis cette nuit. Un homme visiblement désorienté qui a quitté son domicile en pleine nuit. Les pompiers et les gendarmes sont en train de sonder le cours d'eau à côté de son domicile. Toujours dans le Var, ce sont près de 1000 personnes qui sont en cours d'évacuation dans le quartier de l'Oratoire. À hier, camping est évacué également à Fréjus et à Roquebrune-sur-Argence. À la une également, l'appel à manifester à travers toute la France pour dire une nouvelle fois stop au féminicide. Début de la manifestation parisienne à 14h, place de l'Opéra. L'acte 54 des Gilets jaunes avec une marche de soutien à Valenciennes à Manuel, un manifestant qui a été blessé à l'œil la semaine dernière à Paris après avoir reçu un projectile qui aurait été lancé par la police. L'IGPN a d'ailleurs été saisi par le préfet de police de Paris.
Et comme chaque samedi, Fabienne, vous restez avec nous jusqu'à 14h sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.